C'était une arme, un bâton de bois dont le bout, plus volumineux, était recouvert de caoutchouc, une arme souple, de couleur blanche, qu'on surnommait la gomme. La gomme a effacé le sourire, disaient certains. La gomme qu'il fallait éviter, il y avait des tracts pour vous l'enseigner, avec des pages de journaux, des feuilles de papier, on pouvait l'éviter. La gomme, ou la matraque, qui était devenue, les tracts de 68 en témoignent, une métonymie de la violence, les matraqueurs contre les matraqués, l'état policier contre les insurgés. J'en veux pour preuve ce slogan, tout dialogue entre matraqueurs et matraqués est impossible. C'est un verbe aussi, le verbe matraquer, qu'on matraquait précisément pour s'opposer à la matraque, pour retourner le coup de matraque. Cette affiche, ou ceux qui la tiennent, la matraque, ont des allures de squelette, on ne matraque pas l'imagination. C'est un symbole surtout qu'on retrouve partout, comme le souligne l'essayiste américaine Christine Ross dans les reconstitutions dramatiques de mai 68, dans les films documentaires, dans l'iconographie politique, un symbole dont on aurait tort d'oublier qu'il s'agissait d'une arme, matraquer.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-il du genre à nous matraquer d'idées? Philosophe et sociologue, il est plutôt de ces intellectuels à l'affût d'autres moyens pour penser et agir sur le présent et réfléchir aussi sur le passé, comme en témoigne la réflexion qu'on va mener ensemble sur mai 68. Bonjour Geoffroy de La Gannerie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Lorsque je vous ai demandé, comme à tous mes invités de cette semaine, de choisir un objet qui vous évoque 68, la matraque en faisait partie.
Oui, absolument, parce que moi je suis toujours frappé que quand on fait l'histoire de la contestation, on le fait souvent du point de vue de ceux qui contestent, et on fait la rue, on fait la barricade, on fait le pavé, etc. Et il ne faut jamais oublier que la manifestation ou la contestation, elle a deux camps, et elle a aussi ceux qui se sont opposés. Et que les traces de 68, elle est aussi beaucoup dans l'État, dans l'inconscient d'État, dans l'inconscient policier. Et moi, ce que j'ai voulu faire en pensant à la question de la matraque, c'est le fait que mai 68 a été un grand moment de répression policière, avec des blessés, avec des morts. Il ne faut pas non plus oublier mai 67, qui a été en Guadeloupe, qui était aussi un grand mouvement un peu précurseur de mai 68, qu'on a un petit peu oublié, où là, il y a eu entre 80 et 100 morts de matraquage liés à la violence policière. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'une des choses qui me paraît très très importante, c'est que la matraque, c'est un peu le signifiant d'un inconscient d'État, c'est-à-dire la manière de concevoir la contestation comme quelque chose qui menace l'État. Comme
à une partir menace. De mai 68.
À partir de mai 68, ça s'est beaucoup développé. Il y a un sociologue, Mathieu Rigouste, qui a fait un livre qui s'appelle L'ennemi intérieur et qui analyse comment mai 68 a été perçu par l'appareil policier, par l'appareil d'État, comme un moment dans lequel on code la contestation comme quelque chose qui est un ennemi à combattre.
C'est-à-dire que le rôle en fait des forces de l'ordre a changé pour vous à partir de ce moment-là.
Je dirais plutôt que le rôle que l'État a donné aux forces de l'ordre a changé. Moi, je pense qu'il est très important de penser que contester, c'est la définition de l'activité démocratique. Quand nous occupons la rue, quand nous apparaissons publiquement, quand nous manifestons notre colère, nous sommes démocratiques, nous affirmons nos droits. Et ce qui est précisément étrange, c'est que l'État, au lieu d'accueillir ça comme quelque chose qui fait partie du processus démocratique, va le coder comme quelque chose à combattre, va le coder comme quelque chose à réprimer. Et ça, c'est très très important parce que ça dit quelque chose de l'inconscient anti-démocratique qu'il peut y avoir dans l'État, à savoir que lorsque quelque chose de l'ordre de la déstabilisation de l'ordre public apparaît, qui est la définition de la démocratie, et ben en fait, on va mettre en place des forces pour le contenir. Donc l'État se comporte de manière non démocratique, et ça dit quelque chose de l'héritage aujourd'hui. Parce qu'on l'a vu, au moment de 2015-2016, il y a eu des processus où la police a mis en place des systèmes pour empêcher les gens de manifester, des assignations à résidence, des interdictions de territoire, des interdictions de manifester, c'est-à-dire petit à petit a conçu le désordre et la critique de l'ordre public comme quelque chose qui était dangereux, alors qu'en fait c'est la définition même de l'activité démocratique.
Est-ce à dire, Geoffroy de La Gannerie, que les violences policières que vous n'avez jamais cessé de dénoncer dans votre travail sont quelque part un héritage de 68?
Je ne sais pas si elles sont un héritage de 68. Je dirais qu'au contraire, 68 a été un moment où les violences policières se sont déportées sur une nouvelle population qui était la population blanche, la population bourgeoise, si on veut les étudiants, la population ouvrière. Et alors qu'elles se travaillent en même temps dans d'autres types de milieux sociaux, dans les colonies, elles se travaillent dans les quartiers populaires, ce qu'on peut appeler les émeutes, dans les quartiers défavorisés, etc. Et donc je dirais que c'est plutôt un moment où il y a eu un développement des pratiques de la répression policière cet objectif de mettre en question la possibilité de désordonner le monde.
Alors on l'entend évidemment dans votre discours, se dessine une remise en question d'un système policier que vous jugez répressif.
Oui.
C'est une certaine conception de l'État, de la justice, du droit. De quelle révolution est-ce que vous rêvez, vous?
Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me pense comme révolutionnaire. Je pense que l'idéal révolutionnaire est un idéal qui nous empêche d'agir politiquement. Je pense que le grand problème de la révolution, c'est que ça nous fait toujours rêver d'un moment total, un moment de convergence, un moment de tous ensemble, un moment où tout serait suspendu, et que avec cette espèce de mythologie-là de la révolution, dont 68 et l'héritage de 68 est l'une des responsabilités, fait que nous avons toujours l'impression que lorsque nous n'agissons, nous ne sommes jamais assez puissants, jamais assez nombreux, jamais assez rassemblés, et qu'il y a cette espèce de manière dans les mouvements contemporains qui prolifèrent, les mouvements écologistes, les zadistes, les mouvements contre les violences violences policières avec notamment le groupe autour d'Assa Traoré que je soutiens, notamment les Antifa, etc. Bon, prolifère tout un ensemble de mouvements aujourd'hui. Aujourd'hui, la grève des cheminots, qui est quand même un des mouvements très très importants. Et à chaque fois, on rêve de quelque chose de plus. On dit il faut converger, il faut que tout le monde s'assemble, etc. Et cette manière d'installer une mythologie de la convergence des luttes et de la révolution fait que les mouvements, au lieu de déployer leur singularité et leur radicalité, se vivent comme mutilés, se vivent comme ne faisant pas assez. Et donc, il y a une manière de la gauche de s'auto-vivre comme impuissante en faisant vivre un mythe de la révolution qui empêche d'être actif. Vous savez, il n'y a pas de révolution parce qu'il n'y a pas de système unifié qui nous gouverne.
Alors, c'est passionnant. Au regard des commémorations autour de mai 68 en ce moment, quel regard est-ce que vous portez, vous, Geoffroy de Laganerie, sur ces commémorations?
Moi, je suis toujours favorable déjà à l'idée qu'on fasse un éloge de la contestation. Ce qui me fait toujours un peu troubler, c'est que la mai 68 ne fasse plus peur. C'est-à-dire que les gens n'aient pas peur des images de 68-68, c'est quand même un mouvement qui avait pour fonction de critiquer les dominations dans l'ensemble des ordres possibles, l'ordre pédagogique, l'ordre policier, l'ordre économique,
l'ordre sexuel. Cette commémoration, c'est une forme d'embourgeoisement, somme toute.
Non, pas embourgeoisement, mais c'est une forme de manière de perdre le contenu subversif qu'il y avait à ce moment-là. Et moi, j'aime beaucoup une phrase de Deleuze qui disait « Mais 68, en le captant sur la question de l'imaginaire ou de la révolution, on perd l'une des choses qui était essentielle dans 68, disait Deleuze. Il disait 68, c'est du réel à l'état pur. En fait, c'est pas du tout le règne de l'imaginaire. 68, c'est les gens tels qu'ils sont. Tout d'un coup, les gens apparaissent comme ils sont. Ils sont réels. C'est ce que Deleuze dit, c'est une bouffée de réel à l'état pur. Et qu'est-ce que c'est le réel? C'est des gens qui ont pas envie de travailler. C'est des gens qui cassent. C'est des gens qui sont fatigués. C'est des gens qui ont envie de faire l'amour. C'est des étudiants qui ont envie d'une autre vie, etc. Et ça, c'est du réel. Et je pense que c'est intéressant parce que ça, c'est des transgenres, c'est des gays, c'est des lesbiennes, etc. Et je pense que ça, c'est très important parce que ça montre à quel point l'ordre social nous oblige toujours à ne pas être ce que nous sommes. En fait, nous passons notre vie à ne pas être authentiques. Et ce qui se passe, c'est que les médias, nous-mêmes, les appareils hiérarchiques, etc., nous obligent à nous mentir à nous-mêmes, à faire ce que nous n'avons pas envie de faire. Et qu'est-ce que ça serait qu'être réel, être authentique? Et pour moi, mai 68, c'est le fait que la révolution, elle est déjà là. Les gens, ils sont déjà tellement différents de ce qu'on croit qu'ils sont. Et donc, affirmer le réel, affirmer le présent, me paraît beaucoup plus important que de penser ça sur le mode de l'imaginaire ou de la révolution.
Et ce que vous dites en creux, c'est que c'est aussi beaucoup plus difficile de penser la contestation autrement aujourd'hui.
C'est très important de penser la contestation. Moi, je crois que l'une des choses à laquelle il faut toujours réfléchir, c'est que les formes de la contestation sont prescrites. C'est-à-dire que nous avons ce que les sociologues appellent des répertoires d'action, c'est-à-dire des manières instituées par l'ordre social de produire comme sujet contestataire. Alors, il y a des outils comme ça qui sont donnés, qui peuvent être les meutes, qui peuvent être la manifestation, la grève, la pétition, mais qui sont en fait des modes de contestation qui sont intégrés au système, et ce qui fait qu'ils sont déjà attendus par le système, prescrits par le système. Et
de ce point de vue, qu'ils sont inefficaces.
Donc, en tout cas, on ne doit pas confondre ce que c'est. Moi, je pense que l'important, c'est ne pas confondre ce que c'est que s'exprimer et ce que c'est qu'agir politiquement. C'est aller dans la rue pour dire « nous ne sommes pas d'accord », c'est pas agir. C'est avoir dit qu'on n'est pas d'accord et rentrer chez soi. Et donc, le grand problème, c'est comment est-ce que nous pouvons trouver des modes d'action efficaces,
c'est-à-dire
agir politiquement.
Et quelle nouvelle forme de contestation? À quelle nouvelle forme de contestation est-ce que vous pensez?
Je pense qu'il y a... Moi, j'ai beaucoup écrit sur les lanceurs d'alerte. Par exemple, sur la question de la manière dont des gens comme Snowden, comme Chelsea Manning, ont des gens qui ont pris l'État par surprise. C'est-à-dire que par là où l'État ne s'attendait pas, au cœur des systèmes, des gens ont dénoncé le système. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas attendu par l'État et qui a vraiment mis l'État en crise. Je pense que l'une des choses qui est importante à repenser aujourd'hui, c'est la question de l'action directe. C'est-à-dire bloquer. C'est-à-dire peut-être un certain rapport parfois à la violence politique. Parfois le fait de constituer des petits groupes efficaces. Moi, je m'intéresse beaucoup à un petit groupe qui s'appelle 269 Libération Animale, qui fait des occupations d'abattoirs pour empêcher, et qui libère des animaux pour empêcher des animaux d'être tués par les abattoirs, etc. Je pense que c'est difficile de dire ça parce que par définition, si une méthode d'action...
Vous placez hors la loi, en fait.
Oui, bien sûr, mais l'État aussi se place hors la loi en permanence. Il faut rappeler que la personne la plus condamnée de France est le préfet de police de Paris, avec 165 condamnations par la Cour pénale des droits de l'homme pour maltraiter les migrants et les demandeurs d'asile. Donc la question de la loi n'est pas une question très importante, même pour l'État. Mais la question qui me semble importante, c'est si les modes d'action soient efficace, et si nous voulons penser en termes d'agir politiquement et pas en termes de nous exprimer politiquement, par définition, même moi, comme théoricien, je vais être surpris. Je vais voir des gens qui tout d'un coup faire un truc auquel je m'attendais pas. Et je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de, dans le mouvement contestataire, de reprendre l'initiative du temps politique. C'est-à-dire de prendre l'État par surprise et d'imposer les choses. Moi, je suis très frappé par le fait qu'aujourd'hui, nous pensons toujours que nous gagnons quand en fait nous ne perdons pas. Je prends l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. On a dit c'est une des grandes victoires de la gauche. Enfin, une mobilisation qui a gagné. Mais c'est pas vrai. On n'a pas gagné. On a juste pas perdu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'est pas fait. Mais il y a rien de de nouveau qui a été créé. On n'a pas inventé quelque chose. Les grèves d'aujourd'hui, aussi importantes soient-elles, si on gagne, on perd pas, c'est tout. Mais on n'a pas gagné, on n'a pas imposé un nouveau statut, on n'a pas imposé de travailler moins, on n'a pas imposé de meilleures conditions de travail. La différence majeure, 36-68, c'était nous, la gauche, qui faisions le temps politique, qui disions à l'État, on veut moins travailler, on veut plus de conditions de travail, on veut plus de sexualité, on veut moins de racisme, etc., moins de violence policière. Et donc, c'était la gauche qui faisait le temps politique. Aujourd'hui, c'est la droite qui fait le temps politique, ce sont les forces réactionnaires qui font le temps politique, et on appelle gagner le fait de ne pas perdre. Et qu'est-ce que ce serait aujourd'hui de gagner? C'est ça la question.
Alors, si je vous comprends bien, ce que vous préconisez, Geoffroy de la Gannerie, c'est de foutre le bordel.
Dans votre bibliothèque, juste derrière vous, il y a une petite carte où il est marqué « Joyeux bordel ».
Oui, c'est un très bon ami à moi qui s'appelle Paris Clavel, qui est l'auteur de la couverture de La misère du monde, et qui m'a envoyé ça à l'occasion de la Noël. Et comme j'ai trouvé ça assez sympathique, je l'ai laissé derrière moi. Voilà. Il fait beaucoup de choses parodiques, comme ça, que j'aime bien.
Ça vous va bien, non? C'est presque un slogan, joyeux bordel.
Un petit peu. Oui, enfin, oui.
Vous aimeriez bien que la société soit un peu moins attentiste?
Oui, je pense. Un petit peu plus agité, un petit peu plus troublée et troublante, un peu moins monotone, un peu moins bureaucratique, oui, je pense. Mais il ne faut pas trop le dire, surtout ici.
Pourquoi?
Parce que bon, c'est un lieu sérieux, un lieu du savoir. Enfin, le Collège de France a une grande tradition, il a une devise, il est censé tout enseigner très très sérieusement. Bon, il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent cette posture, mais je pense aussi que beaucoup de gens ont du mal à associer à l'idée de savoir, de connaissance, enfin l'idée de bordel, de désordre. Alors que moi je pense que science naissante, comme la sociologie, et comme on dit parfois bordélique. Enfin, elle chahute surtout les cerveaux, elle chahute les structures mentales, elle chahute les manières de penser, et c'est pourquoi je crois qu'elle fait peur. Alors on la décrit souvent comme terroriste, parce qu'elle terrorise un petit peu, hélas, elle n'a pas les moyens de terroriser vraiment, elle terrorise un petit peu les terroristes. Voilà. Enfin, en tout cas, elle s'y efforce parfois. Mais je pense que cette définition, oui, me plairait assez.
Extraordinaire, Pierre Bourdieu, oui. Il y a 20 ans, Geoffroy de la Gannerie, qui plaidait pour un monde plus bordélique, pour un joyeux bordel. Alors, c'est vous qui avez choisi cet extrait de 98, 30 ans après mai 68, au micro de Laura Adler, qu'on embrasse au passage, qu'on est comme ça, dans Boomerang. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce son?
Ça m'inspire deux choses. La première, c'est que moi, j'aime beaucoup entendre la voix de Bourdieu. Je trouve que c'est une voix puissante, une voix vraie. Et quand il parle, on sait qu'il dit des choses vraies. L'autre chose qui m'inspire beaucoup, c'est cette idée selon laquelle il y a un rapport entre la science et le bordel. C'est-à-dire, il y a un rapport entre l'activité de connaissance et l'activité de mettre en question le monde, de chahuter le monde. Et je pense que 68, pour ça, a été un moment très très important, parce que ça a été quel type d'image de la pensée on a quand on pense. Et ça a arraché beaucoup d'universitaires à la figure de la notabilité, à l'académisme, à devenir un professionnel, bien habillé, aller dans des cérémonies respectueuses, etc., pour faire de l'intellectuel un guerriero, pour faire de l'intellectuel un maquisard, pour se rêver comme maquisard. C'est Sartre avec les Mao dans la rue se faisant arrêter. C'est Foucault qui dit « Mes livres, c'est des cocktails Molotov ». Et je pense pas que c'est une métaphore, c'est-à-dire faire d'un livre un cocktail Molotov. C'est Bourdieu qui dit « Moi, je donne des armes », et c'est le langage de la guerre. Et je pense que ça, c'est vraiment très très important quand on se pense comme intellectuel. Est-ce qu'on veut se penser comme du côté de la guerre, comme du côté des armes, comme du côté du cocktail Molotov, ou est-ce qu'on se pense du côté d'une forme de notabilité? Et c'est vrai que 68 a été une critique radicale de l'ordre universitaire, avec notamment l'expérience de Vincennes, la mise en question de la pédagogie, de l'accès par les titres scolaires, de qui parle à l'université, de la critique des titres, etc. Et je pense que c'est vraiment une image très très importante. Moi, quand j'essaie de penser aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'essaie de faire. Refaire une pensée qui soit authentique, qui soit vraiment de la pensée, mais parce que plus je pense, plus je fous le bordel, et plus je fous le bordel, plus je pense.
Mais pourtant, Bourdieu, qui s'exprime au Collège de France, dit bien que c'est un lieu de savoir et de sérieux qui aurait du mal à faire rimer connaissance et bordel. Qu'est-ce qu'il nous dit en creux des lieux de savoir que sont le Collège de France, mais aussi l'université de manière plus générale? Et là, on est après 68.
Mais il dit ça, effectivement, qu'il y a une grande, grande problématique, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que l'université doit être un lieu qui crée des habitus de la contestation et non pas des habitus de l'ordre.
Mais il dit que ce ne sont plus des lieux de contestation.
Et oui, il y a eu une restauration conservatrice, sans doute dans l'université dans les années 80, qui a été très très puissante. Mais je pense quand même que c'est vraiment une idée très importante. Moi, je pense que l'université est un lieu central pour comprendre le monde social, parfois plus que les médias. L'université est le lieu où tout le monde passe, où les cerveaux sont formés, où les experts qu'on interroge à la radio, à la télé sont formés, etc. Et donc, il y a un quasi-monopole de l'université sur la production des cerveaux et des corps. Et que si jamais nous voulons faire un monde un peu plus bordélique, il faut rendre l'université un peu plus bordélique.
De quel œil est-ce que vous voyez la façon dont le gouvernement entend réformer l'université avec un risque de sélection des étudiants?
Oui, alors même plus généralement, il y a la dernière partie de la phrase de Bourdieu qui est « terroriser les terroristes ».
Oui.
Et ben moi, je pense que c'est exactement le mot qui doit définir le mouvement social et le résistance au macronisme aujourd'hui. Alors, je ne dirais pas que Macron est un terroriste. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on dit souvent, quand on pense à Macron, qu'il fait un gouvernement libéral ou néolibéral. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que Macron, ce qu'il essaie d'instaurer, c'est un gouvernement de la terreur. C'est-à-dire qu'il veut restaurer la façon dont les gens sont terrorisés par les petites hiérarchies auxquelles ils sont soumis. Si vous démantelez les protections syndicales, et ben les gens sont de plus en plus soumis à leur patron. Si vous contrôlez les chômeurs en pouvant les radier s'ils refusent une offre, vous les terrorisez par rapport à leur
contrôleur. Alors, quelle finalité vous voyez à cette réforme?
Non, mais par exemple, si vous démantelez la protection des migrants, vous les terrorisez par rapport à la police. Si jamais vous pensez aux cheminots qui sont plus protégés par rapport à leur patron, vous pouvez penser à... Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça où je pense que Macron restaure en fait les autorités naturelles, les petites autorités par rapport auxquelles les gens sont terrorisés et n'osent plus contester, et que c'est vraiment un gouvernement aujourd'hui de la terreur et des hiérarchies qui s'imposent dans une espèce d'organicisme d'une nation rassemblée, très proche de la revue Esprit des années 30, et que terroriser ce gouvernement de la terreur, c'est vraiment le but du mouvement social aujourd'hui.
Quelles en pourraient être les conséquences de cette réforme, de ces réformes?
Bah, en tout cas, ce qui est beau, très important sur la question de l'université, moi je pense que, le fait de réformer l'accès à l'université et de mettre des sélections pour rentrer à l'université, ça va favoriser les systèmes, et on le sait, des systèmes d'auto-élimination, des gens qui vont pas oser postuler, donc qui vont s'auto-éliminer, oui. Qui vont devenir moins étudiants. Donc déjà, les destins sociaux vont être écrits encore plus tôt que maintenant, mais peut-être encore plus. Moi, j'ai toujours, quand j'ai des étudiants, je leur dis, restez étudiant le plus longtemps possible. C'est-à-dire, n'allez pas dans la vie professionnelle. Faites des masters, faites des thèses, faites deux thèses, etc. Je pense que la question du temps libre, la question de ne pas avoir de patron, de ne pas avoir d'horaire, de ne pas se lever tôt, donc de pouvoir avoir rapport à la culture, à la liberté, à la sexualité, au cinéma, à la vie libre, c'est vraiment très très important. Et je pense que créer des modes de vie étudiants, c'est vraiment l'avant-garde pour moi de la possibilité d'un temps de gauche, d'une subjectivité de gauche. Et c'est pour ça que l'université est un lieu central pour les conservateurs, parce que c'est casser la subjectivité de gauche qui est le temps étudiant comme temps libre. Et donc vraiment, moi je pense que c'est une réforme qui est catastrophique, non seulement parce qu'elle produira encore plus de reproduction sociale, mais parce qu'elle casse l'un des subjectivations possibles de contestataires, qui est d'être arraché au monde social et donc de pouvoir imaginer des choses pour le contester.
Outre les conseils que vous donnez à vos étudiants, Geoffroy de la Gannerie, dans un contexte comme celui-ci, comment refaire de l'université un lieu de contestation, pour ne pas dire un joyeux bordel? De quelle résistance est-ce que vous parlez?
Oui, bah ça évidemment, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut faire deux choses. Il faut créer des lieux extérieurs qui peuvent permettre de faire une vie intellectuelle en dehors de l'université, et il faut infiltrer l'université. Moi, je pense que vous avez parlé tout à l'heure des modes d'action. Et je pense que ce qui est vrai, c'est que quand on pense en termes de radicalité, très souvent, on se pense en dehors des institutions. Et on a, en gros, un partage comme ça du monde entre les radicaux qui seraient dans la rue, qui seraient marginaux, etc., et l'ordre, en fait, les ministères, la police, etc., les juges, qui sont, eux, les gens de droite ou les gens conservateurs. Et c'est vrai que moi, je me demande si cette partition-là, elle fait pas qu'on laisse les institutions à la droite. Et que, il est très important, à mon avis, de ne pas s'exclure des institutions et de réavoir une pratique de l'infiltration radicale, c'est-à-dire de rentrer dans les institutions pour les transformer et de ne pas les laisser à la droite. Vous savez, une institution, elle n'est rien. Elle peut être tout et rien. Le droit, ça peut être un grand instrument d'émancipation et un grand instrument d'oppression. Un ministère, la police aussi, peut être un corps émancipateur s'il défend les gens qui manifestent contre le mariage gay, ou alors il peut être un corps oppresseur. Donc, il n'y a pas d'institution pure. Il y a des institutions qui peuvent être utilisées pour faire des pratiques émancipatrices ou utilisées pour faire des pratiques conservatrices. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je réfléchis beaucoup sur l'infiltration comme peut-être nouvelle manière d'être radical.
Bon, bah, je vous propose qu'on monte sur la table, Geoffroy. Hein. Allez-vous de s'infiltrer. On tape du pied, on se met à danser, à chanter, à sauter, même avec Nina Simone. Tiens, I ain't got no, I got life. Vous êtes sur France Inter avec Geoffroy de la Gannerie. Vous écoutez Boomerang et vous rêvez d'un monde meilleur.
Ain't got no faith, ain't got no earth. got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, my soul, got my back, I got my sex.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors évidemment, comme ça, c'est difficile de croire qu'il est l'élément perturbateur par excellence. Avec son air de squatteur du premier rang et de 24 sur 20 tout le temps, il est au-dessus de tout air, de tout soupçon. Hein. Comment imaginer qu'il soit l'auteur des dessins salaces sur le tableau, qu'il fournisse tout l'établissement en boules puantes et autres farces et attrapes, qu'il ait même été jusqu'à voler la cafetière de la salle des profs? C'est tout simplement impossible. Air juvénile ce matin, tout en bleu, sweatshirt et jean. Geoffroy de Laganerie, philosophe et sociologue, invité de Boomerang pour parler de l'héritage de 68 par le prisme de la sociologie. On vous a bien entendu. Quelle arme, puisque vous avez utilisé ce terme en citant Bourdieu, est-ce que c'est pour vous précisément la sociologie?
La sociologie, pour moi, c'est la vérité du monde. Vous savez, pour moi, il n'y a pas de possibilité de penser le monde sans le penser sociologiquement, c'est-à-dire sans mettre en avant de la question du monde social, la question des déterminations et des structures de domination.
Pourquoi est-ce qu'elle est en remise en question aujourd'hui?
C'est vrai que parce qu'à partir du moment où il y a des offensives conservatrices sur le monde, de quelle manière est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte de ne pas voir le monde? Vous savez, moi, ma grande théorie, c'est que les gens savent la vérité du monde, savent qu'il y a de la domination, savent qu'il y a de l'exploitation, savent qu'il y a de la misère, etc. Tout le monde voit des clochards quand ils sortent du restaurant, donc tout le monde le sait. Mais par contre, il faut inventer des discours pour ne pas le voir et pour continuer à perpétuer l'ordre et faire sa vie avec bonne conscience, en quelque sorte, ou sans trop de mauvaise conscience. Et la sociologie, quelque chose qui vous met devant l'objectivité des systèmes de domination, c'est-à-dire le fait que la vie est relationnelle et que donc si jamais nous avons des privilèges, c'est que donc ce sont des déchus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection sans déchéance et que par conséquent, si jamais vous profitez de quelque chose, vous savez que quelqu'un d'autre n'en profite pas et que vous devez ce que vous êtes au fait que d'autres souffrent.
Oui.
Et alors la sociologie, elle rappelle toujours cette espèce de malaise d'être soi parce qu'il faut prendre conscience du fait que par exemple, si jamais moi, je suis dehors, je suis libre, d'autres sont en prison. Et comme je le dis souvent moi dans mes interventions, aujourd'hui en France, 77% des gens en prison sont noirs et arabes. Voilà. 80% des jeunes garçons noirs et arabes sont contrôlés par la police au moins une fois par an, c'est seulement 10% pour les jeunes blancs. Si jamais vous pensez aussi aux violences policières, quand vous faites les 15 ou 20 morts par an par violence policière, ce sont que des noirs ou des jeunes arabes. Donc par exemple, le fait qu'il y a des structures raciales extrêmement puissantes d'oppression, et si vous pensez à l'inverse, dans les systèmes légitimes, dans les médias, il n'y a pas de noirs, dans l'université, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas cette présence des noirs et des arabes dans le champ culturel, et donc il y a des systèmes raciaux qui fait que par exemple moi, en tant que blanc, c'est vrai que je profite d'un certain nombre de privilèges, et à partir de ce moment-là, si je peux prendre la parole, c'est que d'autres le peuvent pas, et que donc si je prends la parole sans parler de ça, alors je suis un peu complice du fait que certains sont en prison, ou certains sont contrôlés, ou certains sont tués par la police.
On l'entend, votre pensée est complexe, elle ne se résume pas au pour ou contre, à 140 signes ou en une ligne, Geoffroy de Laganerie. La question que je me pose et que vous devez vous poser sans cesse, c'est comment la faire entendre, cette pensée complexe, aujourd'hui? Ça paraît de plus en plus complexe.
Vous savez, moi je suis pas du tout mitterrandiste, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup de François Mitterrand qui disait « Je crois aux forces de l'esprit ». Ben c'est vrai, je crois aux forces de l'esprit, je crois à la puissance de la pensée. C'est pour ça que je crois beaucoup à l'idée de faire des livres, faire des beaux livres, faire ce que j'espère être des grands livres, des livres importants qui marquent des choses, qui marquent des étapes. Parce que si jamais vous êtes capable de produire des livres, livres, vous produisez des gens qui changent en les lisant, et vous avez des chaînes de gens qui changent. C'est-à-dire, effectivement, un livre peut se vendre de manière modeste, mais après, il est lu par des gens qui en parlent à des gens, qui en parlent à des gens, et ça, ça fait un public, ça, ça fait beaucoup de monde. Mais ça fait du monde dans du temps. Et donc, je crois beaucoup à la puissance de la pensée, à la nécessité de la pensée, et d'exiger une exigence intellectuelle, comme disait Bourdieu, voilà, faire de la science et en même temps la penser en termes de bordel. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que vous répondrez, par la pensée.
Vous avez choisi de nous lire un texte, oui. Geoffroy de La Gannerie, un texte qui touche quelque part de côté à une actualité. Peut-être vous pouvez nous le présenter.
Oui, alors c'est un texte de 1976 de la Ligue du droit des femmes. C'était un groupe féministe très important qui a été soutenu et fondé par Simone de Beauvoir et pas beaucoup de féministes. Et c'est un texte de 76 qui, à mon avis, est un texte qui n'aurait plus d'auteur aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que dans le mouvement féministe et dans le mouvement sexuel en général, il y a une humeur anti-répressive, une critique de la répression qui a été perdue. Et ce qui me semble très très important, quand on a parlé récemment de MeToo, de Balance ton porc, qui sont des mouvements particulièrement impressionnant et important pour révéler la force de la permanence des structures de la domination masculine et de l'agressivité permanente que les femmes ressentent dans leur vie quotidienne et au travail. Très souvent, ce mouvement a été capté par une humeur pénale. C'est-à-dire de penser qu'on réglera un problème sociopolitique par de la pénalité, par de la répression, et on a appelé à allonger l'âge du consentement, allonger la prescription, diminuer le droit de la défense. On s'est indigné quand un jury d'assises a acquitté quelqu'un pour viol, etc. Et donc, on avait en quelque sorte en tête l'idée qu'on va régler un problème sociopolitique par de la peine, par de la répression, par de la prison. Et ça me paraît pour moi être vraiment un problème. Et donc, je vais lire le texte parce que pour montrer, voilà, qu'est-ce que c'est que pour moi de critiquer la domination masculine sans appeler à de la répression d'État. Elle a écrit ça, la Ligue des droits des femmes. Ce n'est pas l'emprisonnement de l'agresseur, pardon, qui changera sa mentalité et qui lui apprendra qu'une femme est un être humain. Par conséquent, cette peine est inutile puisqu'elle n'apporte rien aux femmes et ne fait pas évoluer les mentalités. C'est très important ça parce que ça veut dire que c'est pas du tout la même chose de critiquer, d'être contre un fait et d'être pour sa pénalisation. On peut lutter contre l'agression sexuelle et pas nécessairement être pour la pénalisation de l'agression sexuelle. La Ligue, en outre, refuse de se servir de l'institution carcérale. Cette solution sexiste permet sans doute à notre société de se débarrasser d'un problème qu'elle a créé elle-même en fabriquant des violeurs. Mais il ne s'agit que d'un leurre. Si les femmes exigent que le viol soit dénoncé publiquement en tant que crime, c'est parce qu'elles souhaitent que tous, hommes et femmes, prennent conscience de l'importance de la violence sexiste dans notre société. Elles ne veulent plus apparaître comme des victimes, c'est-à-dire comme des sujets passifs, mais comme des êtres ayant une dignité sexuelle qu'elles entendent faire respecter et exprimer clairement en renonçant à toute vengeance inutile et notamment à l'emprisonnement. Alors ça, c'est très beau pour moi, vraiment. Qu'est-ce que c'est que avoir une pensée sociopolitique, de critique des problèmes sociopolitiques et pas une pensée pénale? Vous savez, dans un champ, il faut toujours penser, non pas tellement dans un espace à un moment donné, il faut toujours penser à, pas sur quoi les gens débattent, mais sur quoi les gens sont d'accord. Quel est le consensus? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'appeler à de la répression quand il y a un problème, c'est la droite, c'est la gauche, c'est tout le monde. C'est-à-dire que nous avons contaminé nos imaginaires par des éléments de langage d'État et d'État répressif. Et donc moi, mon hypothèse, elle serait de dire, si nous voulons penser sociopolitiquement les problèmes, il faut que les victimes se pensent comme des révoltés et pas comme des plaignants.
Dans le monde tel que vous le pensez, Geoffroy de La Gannerie, ça sera ma dernière question, que voudrait dire rendre justice?
Rendre justice, c'est critiquer les structures de la domination. C'est-à-dire que la justice, ça n'est pas une affaire de peine, ça n'est pas une affaire d'emprisonnement, ça n'est pas une affaire individuelle. Rendre justice, c'est casser les systèmes qui rendent possibles les comportements dont nous sommes victimes. Vous savez, quand on est victime de quelque chose, on n'est jamais victime d'un individu. On est victime de structures qui ont rendu possible que cet individu produise cet acte. Et donc, je crois qu'on est beaucoup plus heureux si jamais, quand on a été victime de quelque chose, qu'on a authentiquement souffert, on a un peu, cassé les structures présentes qu'il faut qu'on souffre, plutôt qu'on a envoyer quelqu'un en prison, et comme dit le texte, on croit qu'on s'est débarrassé du problème, la structure machiste perdure, et donc en fait on est toujours victime de ça.
Merci infiniment, Geoffroy de La Gannerie, d'être venu faire un tour dans cette émission, d'avoir fait souffler un vent de jeunesse aussi sur cette semaine consacrée à mai 68. Je rappelle que les deux derniers cycles de conférences que vous animez et qui s'intitulent « Faire le présent » auront lieu les 11 avril et 23 mai prochains au Carreau du Temple à Paris. Je vous invite aussi à vous rendre à l'exposition de Radio France sur les événements de 68, coproduite avec l'INA. Ça s'appelle « Silence Radio », c'est à partir d'aujourd'hui et c'est jusqu'au 29 juin tout de suite, celle qui ne nous laisse jamais sur le carreau. C'est Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai ne suis qu'un animal déguisé en madone. Je pourrais te blesser.